Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Le Groenland a rendez-vous avec sa population le 11 mars prochain dans le cadre d'élections générales anticipées afin de remanier le Parlement du pays à un moment où les relations avec le Danemark, l'Europe et Washington se trouvent à un point critique. La nation inuit est sous haute surveillance américaine. Donald Trump a de nouveau insisté lors de son premier discours de politique générale sur l'importance pour son pays de prendre possession de cet immense territoire hautement stratégique de l'Arctique. Pays semi-autonome, dépendant du Danemark politiquement et financièrement, le Groenland reçoit de Copenhague une subvention globale de 500 millions d'euros par an. La question de l'indépendance totale est un sujet de débat. Des sondages récents ont montré que si la grande majorité des Groenlandais sont favorables à l'indépendance, peu d'entre eux sont prêts à compromettre leur niveau de vie pour y parvenir. Quatre fois plus grande que la France, l'île Arctique est un enjeu géopolitique pour les États-Unis et fait l'objet de convoitise également de la part de la Chine et de la Russie. Avec plus de 2 millions de kilomètres carrés situés au nord-est du Canada, dont il est séparé par 26 kilomètres de détroit de Davis, le Groenland et ses 57 000 habitants sont positionnés géographiquement en Amérique du Nord, mais font partie de la sphère économique et juridique de l'Europe en raison de leur appartenance au Danemark, État membre de l'Union européenne. Regard sur ce territoire longtemps trop méconnu des grandes nations européennes. Nos invités par téléphone, Damien De Georges, consultant basé à Reykjavik en Islande et docteur en sciences politiques, spécialiste du Groenland, auteur de « Terres rares, enjeux géopolitiques du XXIe siècle » paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour.
Également par téléphone depuis Oslo, Florian Vidal, chercheur à l'université de Tromsø, l'université de l'Arctique de Norvège. Bonjour.
Bonjour.
Et avec moi en studio, Emmanuel H., adjoint scientifique et économiste prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Le renouvellement du Parlement donc groenlandais devait avoir lieu en avril. Il se tiendra finalement ce 11 mars, un scrutin anticipé. Donc, les 31 sièges du Parlement sont à renouveler. Qu'est-ce que l'on peut dire, Damien De Georges, de l'enjeu de ce scrutin? En tout cas, le Groenland est placé sous les feux de la rampe.
Alors l'enjeu géopolitique, il est clair depuis le 7 janvier dernier, c'est comment faire face à la menace géopolitique qui se présente et finalement le premier stress test pour l'idée d'une indépendance groenlandaise depuis la menace militaire de Donald Trump.
Alors indépendance à long terme, immédiate?
Non, alors sur l'indépendance, il y a le discours et il y a la réalité. On va dire que avant l'épisode du 7 janvier, il y avait une tendance à en parler finalement le plus possible quand ça s'éloignait finalement très clairement. Et depuis le 7 janvier, il y a un retour complet sur Terre et un virage à 180 degrés où le réalisme prend le dessus et où il reste encore quelques angles morts dans le débat dont on aura sans doute le temps de parler plus tard.
Alors, angle mort, effectivement, on y reviendra. Florian Vidal, votre commentaire à vous sur ce scrutin et l'indépendance à venir.
Ce qui est intéressant, il y a eu un... Alors, ce qui est dans la société groenlandaise, un point intéressant, c'est qu'il y a très peu de... En fait, il y a un manque de données sur les estimations dans les sondages, en fait, sur les votes, etc. Et il y a eu, en fait, un sondage qui est apparu pour essayer de représenter un peu la force en présence. Et ce qui est intéressant, c'est que la coalition au pouvoir actuellement, qui est la coalition indépendantiste, est en fait déclinerait. En fait, il y aurait une forme de déclin au profit de partis favorables finalement à rester au sein du Royaume du Danemark, mais aussi favorables à l'adhésion finalement à l'Union européenne. Mmh. Et là, ce qu'on voit en fait dans cette nouvelle composition, c'est un clivage finalement entre les indépendantistes et ceux qui souhaitent finalement rester au sein du Royaume et s'ancrer davantage finalement au sein de l'Union européenne. En tout cas, c'est ce qui peut apparaître.
Alors, on va reparler de cette question d'adhésion à l'Union européenne pour bien éclairer nos auditeurs. Le Groenland fonctionne sous tutelle du Danemark, Damien De Georges. Le Danemark qui lui-même fait partie de l'Union européenne. Pas le Groenland.
Oui, alors le Groenland a fait partie de l'Union européenne entre 1973 et 1985, et on peut dire que la menace militaire de Donald Trump peut à la fin finir comme un catalyseur d'un retour du Groenland dans l'UE, comme Poutine l'a été pour l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Et il a été intéressant, en tout cas il a été noté au Groenland, que même si le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est un territoire d'un État de l'Union européenne. Et ce qui a été intéressant à noter, c'est justement cette réaction des deux grands pays de l'Union européenne que sont l'Allemagne et la France après la menace militaire de Donald Trump le 7 janvier dernier, où on les a vus clairement expliquer qu'on ne touche pas aux frontières de l'Union européenne qui plus est, et donc indirectement via le Danemark pour le Groenland. Et ça pose d'ailleurs la question d'un État pas très loin du Groenland qui s'appelle l'Islande, sans même parler de la Norvège. Qu'auraient pu dire l'Allemagne et la France si Trump s'était adressé de cette façon-là à l'Islande?
Alors, vous faites référence beaucoup au 7 janvier. Je reprécise pour nos auditeurs que c'était avant l'investiture de Donald Trump, donc élu en novembre dernier, avant son investiture. Et depuis Mar-a-Lago, en Floride, il avait donné quelques éléments de sa politique étrangère et avec ce focus donc sur le Groenland, un focus qu'il a, je le disais en introduction, réitéré à l'occasion de son premier discours donc de politique générale. Emmanuel Lache, vous êtes avec moi en studio, spécialiste des questions de minerais, etc. Je ne sais pas si à ce stade vous souhaitez intervenir ou rajouter quelque chose de ce que nous avons dit jusqu'à présent.
Si, je pense qu'il y a quand même potentiellement un réflexe de la société groenlandaise à l'heure actuelle de véritablement se questionner sur la route vers l'indépendance, tout simplement parce que dans un climat tel d'incertitude où effectivement, vous avez parlé du 7 janvier, mais il faut quand même parler aussi du mois de décembre où Trump a clairement affirmé que c'était un intérêt de sécurité nationale qu'il y ait des liens très très forts avec le Groenland, voire qu'il y ait une captation du Groenland par les États-Unis. Donc potentiellement, la société groenlandaise, elle était déjà partagée, mais elle est de plus en plus partagée. Pourquoi ? Parce que quelque part, la question qu'elle se pose, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui dans un contexte où potentiellement il y a de l'incertitude, il y a quand même un contexte très guerrier. Est-ce qu'il vaut mieux être indépendant ou est-ce qu'il vaut mieux être attaché à l'Union européenne ou en tout cas au Danemark qui lui-même est rattaché à l'Union européenne? Donc je pense qu'il y a un réflexe de peur qui est en train de se former dans la société groenlandaise et qui pourrait fondamentalement changer les élections.
Alors, bien sûr, ces élections, on les suivra. Et pour prolonger ce scrutin du 11 mars, donc c'est dans deux jours, il y a ce projet de référendum en avril, je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer, Damien de Georges, sur l'indépendance donc du Groenland. Alors, là aussi, pour ce scrutin du 11 mars, ce qui est intéressant de noter, ce sont ces craintes de la part des Groenlandais, des craintes d'ingérence. Le Parlement groenlandais a voté... juste quelques jours avant la tenue du scrutin du 11 mars, il a voté une loi interdisant les dons anonymes ou étrangers aux partis politiques pour tenter donc de se prémunir contre l'ingérence extérieure. Cela nous dit quelque chose, Damien de Georges.
Oui, c'est-à-dire que le Groenland se rend compte de ses limites. Et, bon, pour ce qui est des choses qui se disent durant la campagne, il faut laisser passer la campagne et les élections, et après on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, sur l'indépendance, il y a plusieurs angles morts qui sont pourtant très concrets dès qu'on va arriver ou dès qu'on arriverait sur l'idée d'une indépendance. Je ne parle même pas de la question de la défense, de la monnaie ou des affaires étrangères, mais deux points très concrets. Si vous prenez le discours ultra-indépendantiste qui voudrait finalement que le Groenland soit indépendant demain, alors, une chose est de le vouloir, une autre est de le pouvoir. Et vous prenez le cas de la double nationalité. Vous n'avez aucune assurance qu'un État groenlandais autorise la double nationalité. Il faut savoir que dans les pays nordiques, c'est quelque chose de nouveau, qui n'existait pas il y a 25 ans. Le Danemark l'a autorisé il y a moins de 10 ans. Et comment quelqu'un qui prônerait l'indépendance demain du Groenland, parce que ce n'est pas le Danemark, pourrait autoriser un citoyen groenlandais à être aussi citoyen danois? Si vous avez ce cas de figure... Vous avez en gros l'élite groenlandaise qui le lendemain demande à rester danois. Vous avez un exemple récent avec le Brexit, vous avez vu le nombre de Britanniques qui ont demandé un passeport européen. Ça c'est le premier point. Et à ce moment-là, vous ruinez l'indépendance du Groenland puisque vous n'avez plus personne pour gérer la maison. Et la deuxième chose, c'est la notation de crédit. Il faut savoir que le Royaume du Danemark est triple A, un des rares triple A dans le monde, depuis 1986, selon la Banque centrale du Danemark. Quelle serait la notation de crédit d'un État groenlandais? C'est une bonne question, je ne pense pas que ce soit un triple A. Or, on est bien placé en France pour le savoir que c'est un vrai sujet.
Mmh.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Si on va plus à fond dans cette thématique de l'indépendance du Groenland, est-ce qu'elle est d'abord viable, cette indépendance, et est-ce qu'elle ne serait pas par ailleurs synonyme de plus grande vulnérabilité face aux influences étrangères, Florian Vidal ?
L'hypothèse d'une indépendance serait, de mon point de vue, et pour revenir sur un point essentiel, on revient sur la logique qui aujourd'hui opère au sein de l'administration Trump, qui a été mentionnée par Emmanuel H. C'est la question de la sécurité et de la défense. Et il est évident qu'un Groenland indépendant est incapable d'assurer sa propre défense et devrait automatiquement aller sous la protection soit de l'OTAN, soit des États-Unis. Et en fait, c'est aussi important de comprendre que, au niveau militaire, le territoire du Groenland est intégré dans le commandement de NORAD, qui est le commandement des forces aérospatiales de l'Amérique du Nord des États-Unis, qui a été donc créé durant la guerre froide et qui opère toujours. Les Américains sont présents. Donc, quand on parle donc en fait, l'hypothèse d'une invasion américaine, en fait, ce n'est pas possible puisque les Américains sont déjà présents finalement déjà au Groenland, à leur base de Pitufik, qui est l'ancienne base de Thule, qui est située dans le nord-ouest de l'île. Et donc, la question de l'indépendance sera déjà la question de la sécurité. La question pleine et intégrale de l'indépendance, déjà, sur la question de sécurité, semble totalement impossible, et donc de suite se posera la question de quelle garantie, qui va garantir cette sécurité. Et là, évidemment, les États-Unis ont déjà dressé en fait un peu le chemin, c'est-à-dire que s'il y a une indépendance, de suite les Américains seraient en quelque sorte là pour intégrer ce territoire-là dans la sphère d'influence états-unienne.
Emmanuel H.
Oui, je pense qu'il faut prendre effectivement tout l'ensemble de ces facteurs par rapport à l'indépendance groenlandaise. On a parlé de notation AAA. La notation AAA, elle dépend aussi des recettes budgétaires de l'État groenlandais. Et en l'état actuel des choses, lorsque vous regardez que le financement, notamment du budget, vient d'une part importante en fait du royaume du Danemark, vous pouvez clairement vous poser la question de si vous avez des recettes budgétaires qui sont beaucoup plus faibles, bien évidemment, la notation, elle va baisser. Donc, on aura un problème financier. Sur la question de la sécurité nationale, effectivement, on a déjà une présence américaine qui assure en partie la sécurité nationale américaine. Et quand moi, tout à l'heure, je parlais d'invasion, c'est potentiellement plutôt une image, parce que finalement, on peut se poser la question, est-ce que les États-Unis ont besoin d'envahir le Groenland ? Absolument pas. Ils ont surtout la nécessité, j'allais dire, de capter les intérêts les plus importants, notamment des intérêts économiques, notamment de renforcer la base de Pitufik, potentiellement, mais surtout après, c'est d'essayer de créer tout un écosystème favorable aux entreprises américaines et notamment sur les ressources potentielles en fait du Groenland que sont les métaux.
Alors, on va y venir et on y vient. Vous nous tendez une belle perche. En tout cas, alors que l'on entend les Américains annoncer la fermeture de consulats en France, fermeture Bordeaux, Marseille, etc. Eux, les Américains, ils ont rouvert leur consulat à Nuuk, c'est bien prononcé, je ne sais pas, en 2020. Alors que ce n'est qu'en 2024 que l'Union européenne a finalement donc décidé également d'y ouvrir un bureau. Ce sera intéressant peut-être un peu plus tard dans l'émission de voir comment est-ce que ce territoire finalement a été négligé. En tout cas, à ce jour, vous l'avez évoqué, une base américaine à Pitufik, donc au Groenland. Mais Damien de Georges, qu'est-ce que l'on peut dire de la présence américaine aujourd'hui ? Quel état des lieux peut-on faire de la présence américaine aujourd'hui au Groenland ?
Alors, vous avez bien fait de mentionner Nuuk, parce que la capitale du Groenland va avoir une place de plus en plus importante vis-à-vis de cette île, puisque, pour revenir sur la question de l'indépendance, Nuuk a actuellement une minorité de la population dans sa région. L'idée politique à Nuuk, c'est qu'il y ait plus de la moitié de la population qui habite Nuuk. L'idée était d'avoir 30 000 habitants d'ici 2030. Aujourd'hui, on est autour des 20 000. Donc, ça paraît rien, mais en fait, ça change tout d'un point de vue politique, puisque quand vous aurez la majorité de la population, donc des électeurs dans la capitale, vu que les électeurs de la capitale votent différemment vis-à-vis du reste du Groenland en ce qui concerne la relation au Danemark et au monde, eh bien, vous aurez forcément un changement politique qui va s'opérer au Groenland. On l'a vu déjà là rapidement avec la menace de Donald Trump.
Donc, dans quel sens, il faut s'attendre précisément ?
Donc, ben justement, vers un moindre débat sur l'indépendance, comme on peut l'entendre ici et là, mais plus sur une plus grande autonomie éventuellement au sein du Royaume de Danemark, renforcer ses liens avec le Danemark. Il faut savoir que le Groenland et le Danemark coopèrent extrêmement bien actuellement, notamment en vue de la présidence du Royaume du Danemark au sein du Conseil de l'Arctique qui va arriver. Et si vous aviez un retour du Groenland au sein de l'Union européenne via le Danemark, il faut être tout à fait optimiste sur le fait que le Danemark saurait représenter les intérêts du Groenland, en tout cas que les deux s'entendraient très bien, vu comme ils se sont entendus sur la question arctique récemment, question arctique qui a été très sensible dans la relation dano-groenlandaise. Et pour maintenant parler de l'Amérique, alors on parle de Donald Trump, il faut revenir à la saison 1 en 2019, quand il avait déclaré son intérêt d'acheter le Groenland. À l'époque, on parlait surtout de la Chine au Groenland. Et en fait, les Américains ont fait un retour au Groenland. Bon, ils ont toujours été présents, mais vraiment là, ils ont calmé les ardeurs chinoises. On n'en a plus parlé, grosso modo, de la Chine au Groenland depuis cet épisode de 2019. Ils ont rouvert effectivement leur consulat et ils sont présents militairement. Finalement, les Américains sont chez eux. Mais pour décrire le Groenland d'un point de vue géopolitique, c'est une zone de défense américaine sous souveraineté danoise. Donc, ça vous donne un peu l'envers du décor. Et il est clair qu'actuellement, les Américains ne jouent pas leur meilleure carte en termes de renforcement de leur relation avec le Groenland.
Alors, est-ce que, si on pousse plus loin le raisonnement, finalement, la part de rivalité avec la Chine est assez peu importante pour les Américains dans cette volonté d'accaparer le Groenland? Je ne sais pas qui veut répondre. Florian Vidal
Oui, juste en un mot, à l'époque, c'était clairement, grosso modo, achetons le Groenland avant que les Chinois l'achètent. Maintenant, c'est différent.
Florian Vidal.
Oui, Anne, quoi, pour accentuer et aller dans le sens de Damien Desgeorges, oui, la Chine aujourd'hui, en 2025, à l'égard du Groenland, elle est en dehors de l'équation désormais, c'est-à-dire que aujourd'hui, la question du Groenland, c'est une lutte d'influence entre guillemets pour vers quel endroit finalement, sur quelle rive finalement de l'Atlantique Nord le Groenland doit aller. C'est plus finalement la question entre les États-Unis et l'Union européenne, plus que la Chine. La Chine désormais n'est plus du tout dans l'équation à présent. C'est vraiment une question entre l'Union européenne, le Royaume du Danemark bien sûr, l'Union européenne par extension et les États-Unis. Donc là, il y a vraiment une... En fait, c'est vraiment aussi le Groenland pourrait devenir l'objet de cette confrontation entre l'administration Trump et la Commission européenne. Ça, c'est vraiment un point qui me semble important. Sachant qu'un point important aussi, c'est au niveau du calendrier, c'est que...
Je vous propose, Florian Vidal, oui. Je vous redonnerai la parole pour démarrer la deuxième partie de l'émission. Je vous relancerai sur la question de calendrier. Après ça, on parlera des terres rares. On vous retrouve, Florian Vidal, avec Damien Desgeorges et Emmanuel H. après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur le Groenland, un territoire arctique objet de convoitise. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Damien De Georges, consultant basé à Reykjavik en Islande et docteur en sciences politiques, spécialiste du Groenland, auteur de Terres rares en géopolitique du 21e siècle aux éditions L'Harmattan. Par téléphone également, mais depuis Oslo, Florian Vidal, chercheur à l'université de Tromsø, l'université de l'Arctique de Norvège. Et avec moi en studio, Emmanuel H., adjoint scientifique et économiste prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle et directeur de recherche à l'IRIS. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission la question de la présence américaine au Groenland. On a reparlé de cette convention signée en 1961 d'une importante base aérienne à Pitufik dans l'extrême nord-ouest. Alors, il n'est pas exclu non plus que les Américains souhaitent développer d'autres installations militaires sur l'île. Et Florian Vidal, je vous avais coupé la parole pour laisser la place au journal pour évoquer les questions de calendrier. De quoi souhaitez-vous nous parler ?
Oui, ce qui est important, c'est l'année 2025 au niveau du calendrier diplomatique m'apparaît assez important et va mettre le Danemark au centre finalement et le Groenland au centre de ses enjeux. C'est qu'à partir du printemps, le Royaume du Danemark va occuper la présidence du Conseil de l'Arctique suite à celle de la Norvège, et ce pour 2 années. Et à partir du 1er juillet 2025, le Royaume du Danemark va occuper aussi la présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc il va y avoir une concentration en fait, le focus sur Copenhague, sur le Royaume du Danemark, qui va être accentué. Et donc dans cette confrontation, on peut en parler, entre l'Union européenne et Washington, le Royaume du Danemark va être vraiment au centre de cette rivalité.
Alors, on l'évoquait là aussi dans la première partie de l'émission où je posais la question de savoir quelle place prenait la rivalité avec la Chine dans le souhait de Donald Trump d'accaparer le Groenland. Finalement, la présence chinoise, les choses sont finalement assez dérisoires. Il y a un pays dont on n'a pas encore parlé, c'est la Russie, bien évidemment. Damien De Georges, est-ce qu'on peut imaginer une espèce de partenariat russo-américain sur l'Arctique, d'où peut-être aussi cette accélération de la volonté américaine d'accaparer le Groenland?
Non, alors après, la Russie est un pays incontournable dans l'Arctique. Donc l'Arctique, pour faire simple, c'est, on parle même plus de nouvelles frontières des relations internationales, ça c'est ce qu'on disait il y a 10 ans, mais c'est clairement un endroit où beaucoup de monde se rencontre, les Américains, les Européens, les Chinois, les Européens et d'autres. Alors, il est clair aussi que ce qui s'est passé en Ukraine a eu un impact en Arctique. Le Conseil de l'Arctique, existe encore officiellement, mais enfin, il s'y passe pas grand-chose. Pour résumer la situation actuelle.
Alors, la présence américaine, l'intérêt américain pour le Groenland, Emmanuel H., on parle beaucoup de son sous-sol. Mmh. Qu'est-ce que l'on sait du sous-sol groenlandais? Est-ce que c'est là aussi un des moteurs des intentions américaines sur cette grande île?
Alors, c'est forcément un des moteurs parce qu'on est dans un monde où chacune des puissances essaye de développer ce qu'on appelle son réseau minier. Développer son réseau minier, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer sa production intérieure, ça veut dire potentiellement acheter des concessions à l'extérieur ou ça veut dire faire des partenariats. Donc chaque pays ou chaque zone qui a un potentiel en ressources minérales, que ça soit des ressources encore en hydrocarbures ou des ressources pour la transition bas carbone, eh bien vous allez avoir donc un intérêt à aller potentiellement développer ces ressources. Lorsqu'on regarde l'état des lieux du Groenland, qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'il y a eu des exploitations. Donc on a exploité dans le passé, au 19e siècle, notamment du charbon, de l'uranium, un peu d'or, un peu de zinc. Aujourd'hui, il reste, je crois, 2 mines en activité. On fait des rubis, des saphirs. Donc c'est absolument de la pierre précieuse. Ce sont des matériaux qui sont très spécifiques. Ce que l'on sait, c'est que potentiellement, il y aurait des substances au Groenland. Alors on sait qu'il y aurait potentiellement notamment du gaz et du pétrole. On sait également qu'il y aurait des ressources qui sont indispensables à la fois à la transition bas carbone, à la fois à la transition numérique et également qui seraient nécessaires notamment dans un contexte assez porteur en termes de guerre pour tous les équipements militaires. On peut penser notamment à tout ce qui tourne autour des terres rares, on peut penser à tout ce qui tourne autour notamment du cuivre, potentiellement de l'or, du graphite, c'est-à-dire en gros des substances qui peuvent rentrer à la fois dans les matériaux de la transition bas carbone, hein, le graphite par exemple, c'est ce que vous allez pouvoir mettre dans une batterie de véhicule électrique, des terres rares, c'est ce que vous allez pouvoir mettre potentiellement dans des moteurs de véhicules électriques, mais vous allez aussi en mettre dans les objets du quotidien, hein, votre brosse à dents électrique a des terres rares. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des aimants permanents à l'intérieur. Les équipements militaires sont très friands de terres rares. Et donc, c'est ce potentiel que l'on vise. Si je prends l'exemple des terres rares qui sont très très spécifiques, hein, ces terres rares, donc c'est entre 15 et 17 éléments, ces terres rares seraient disponibles autour de 1,5% des réserves. C'est-à-dire que c'est potentiellement présent dans le sous-sol et économiquement et technologiquement productible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune production de terres rares. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir notamment, comme on le sait, le Groenland, c'est un territoire qui est extrêmement difficile à aller exploiter. Ce qu'il faut voir, c'est que notamment sur ces terres rares, pourquoi il y a une attention si particulière, notamment des États-Unis, mais pas que des États-Unis. Hein. L'Europe aussi est intéressée par le potentiel du Groenland. Hein. Le Groenland pourrait répondre à 25 des 34 métaux qui sont critiques par l'Union européenne. Si j'en reviens à l'équation plus globale sur les terres rares, aujourd'hui, les terres rares, en termes de réserves, c'est 93% dans les pays non OCDE, c'est 7% pour les pays de l'OCDE, en termes de réserves. Si vous regardez la production, c'est 11,5% pour les États-Unis, c'est autour de 69% pour la Chine, et vous allez avoir quelques productions en Indonésie, en Russie, en Birmanie, notamment en Inde, à Madagascar, et un tout petit peu au Brésil. Ça veut dire que c'est extrêmement concentré, notamment en Chine. Donc, bien évidemment, il y a un attrait. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous en compétition à la fois technologique et aussi en compétition pour aller vers ces transitions.
Alors, est-ce que, Damien Degenre, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Et moi, j'ai cette question. Est-ce que l'industrie minière peut résoudre tous les problèmes du Groenland ? Et comment la population, dont je rappelle le nombre, 57 000 habitants, sur une étendue qui est plus de 2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire que c'est vraiment très grand, c'est quatre fois plus grand que la France. Comment la population réagit-elle, Damien Degenre ?
Alors, vous avez raison de remettre le Groenland dans son contexte. C'est effectivement environ quatre fois la France en superficie et environ 57 000 habitants. Et pour parler de l'Union européenne, c'est quand même 37,5 millions d'euros par an qui vont au Groenland, hormis la pêche, et principalement pour l'éducation. Donc, si vous remettez ça dans un contexte français, c'est comme si le maire de Chambéry, par exemple, recevait 37,5 millions d'euros pour ses écoles de l'Union européenne, ce qui est quand même une belle somme. Après, pour ce qui est des ressources, le Groenland a tout. Hein, on parlait du pétrole, du gaz, des minerais, de l'eau accessoirement. Hein, environ 10% des réserves d'eau douce mondiale sont au Groenland, du sable, etc. Donc il a tout pour attirer toutes les puissances du monde. Après, sur le pétrole et le gaz, ça a été au cœur du projet de financement de l'indépendance quand le référendum sur l'autonomie renforcée a eu lieu en 2008. Et en gros, le Groenland devrait, si on réécoute les débats de l'époque, devrait déjà être indépendant. Or, il n'a jamais été trouvé de façon commercialement viable du pétrole et du gaz au Groenland. Et surtout, le plan pétrole et gaz du Groenland a été mis sur pause, a été arrêté, si vous voulez, durant le Covid, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que l'émergence de la finance verte faisait que les investisseurs ne voulaient plus investir dans ces activités pétrolières et gazières dans l'Arctique. Donc, on reparle un petit peu de ce sujet, mais enfin, on est très loin du compte. Et puis, la question des minerais, les dernières élections au Groenland, il y a 4 ans, c'était pour ou contre l'extraction d'uranium, pour faire simple. Donc ça a été non vu le résultat. Et donc si c'est non, ça veut dire qu'un des gros projets de terres rares n'aura pas lieu. Accessoirement, l'entreprise qui avait eu une licence pour explorer ce projet, donc s'était vu finalement barrer la route par ça et a intenté une action contre le Groenland et le Danemark, qui pourrait techniquement coûter très cher au Groenland. Donc, ce sont des vrais sujets qu'il faut regarder à 360 degrés.
Emmanuel Hache ?
Oui, je vais aller dans le sens, notamment sur la question pétrolière et gazière. L'intérêt économique, il est forcément limité. Pourquoi ? Parce que, notamment d'un point de vue international, on sait pertinemment que Viser une trajectoire bas carbone, ça veut dire potentiellement avoir un pic de demande pétrolière à l'horizon 2035-2040. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, toutes les ressources les plus chères ne seront jamais développées. Ou en tout cas, finiraient en actifs échoués, c'est-à-dire finiraient dans les cimetières de la comptabilité. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent absolument pas être rentables. Ce qu'il faut voir également, c'est que l'ambition américaine, notamment sur les minerais, elle vise aussi à, j'allais dire, profiter du réchauffement climatique, notamment pour pouvoir aller explorer de nouveaux territoires groenlandais. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que le temps de développement d'un actif minier aujourd'hui, dans des conditions normales, c'est pour, j'allais dire, les ressources les plus faciles, on tourne autour de 7-8 ans.
Condition normale, c'est quoi?
Condition normale, c'est un pays qui est stable, c'est, j'allais dire, des infrastructures énergétiques déjà qui préexistent. Ça veut dire des conditions logistiques favorisées. Le Groenland n'est pas un pays où les conditions logistiques sont favorisées, notamment la production d'énergie n'est absolument pas au niveau de ce qu'il faudrait si on veut notamment faire de la mine et après raffiner les métaux sur le territoire, parce que bien évidemment, il n'y a pas qu'une histoire de production minière. Si vous voulez avoir de la valeur ajoutée et si vous voulez avoir budgétairement des recettes intéressantes, il faut remonter la chaîne de valeur pour produire des métaux. Et là, il vous faut de l'énergie. Alors effectivement, il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a les compétences? Est-ce qu'il y a les équipements? Est-ce qu'il y a les financements? Quand vous voyez la difficulté aujourd'hui à financer des mines dans des environnements, j'allais dire classiques, dans les pays européens, aux États-Unis, ou en Australie, et bien vous pouvez vraiment vous poser la question de savoir si un jour, véritablement, on aura une industrie minière, j'allais dire, digne de ce nom au Groenland.
Alors, tout ça pour dire, si on pousse plus loin le raisonnement, que finalement, l'enjeu pour les Américains, il est pas tant sur la question des minerais que sur une position géostratégique que s'accaparerait donc les États-Unis en s'accaparant le Groenland. C'est ça qui importe plus aux Américains finalement, après tous les bémols que vous venez de soulever, Manuel Hache.
Je ne sais pas si c'est uniquement géostratégique, mais en tout cas, il y a une dimension temporelle. Je vais prendre un parallèle avec l'Ukraine parce qu'on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Et je suis un de ceux qui dit par exemple que Donald Trump, s'il finit son mandat au bout de 4 ans, ne verra jamais une production de minerais ou de métaux en Ukraine. C'est la même chose pour le Groenland. C'est-à-dire que si les États-Unis jouent le développement d'une industrie minière au Groenland, c'est pas à 4 ans, c'est pas à 10 ans, c'est à 15 ans. Et c'est, là, je vais être un tout petit peu en contradiction avec mes camarades, mais c'est à 15 ans pour notamment éviter que potentiellement d'autres viennent développer le territoire du Groenland. C'est-à-dire que on est dans un monde où quelque part empêcher d'autres de développer une mine ou de développer une industrie métallurgique est peut-être aussi important que de le développer soi-même.
C'est de la puissance.
Exactement, c'est exactement de la puissance.
Florian Vidal, vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose? Après ça, le temps tourne beaucoup. Moi, j'ai aussi cette question sur que peuvent faire finalement les Américains face aux ambitions américaines. Et puis souligner aussi que le Groenland, pendant des années, il a été... personne ne s'y est véritablement intéressé, à commencer par les Européens d'ailleurs, et peut-être même aussi le Danemark lui-même, qui n'a jamais pris, et on peut s'en étonner, le sujet du Groenland à bras-le-corps. Florian Vidal.
Oui, et en fait, j'aimerais bien aussi, à ce moment-là de l'émission, aussi remettre un peu finalement le contexte du temps long du rapport en fait des États-Unis au Groenland. En fait, c'est une très très vieille question. La première tentative d'acquisition des États-Unis du Groenland remonte à 1867, la même année où les États-Unis ont racheté l'Alaska à l'Empire russe. Donc en fait, il faut aussi inscrire, et là c'est pour aussi rejoindre finalement les propos d'Emmanuel H, en fait il faut aussi s'inscrire dans le temps long en fait. L'idée de la position actuelle des États-Unis, c'est de décider finalement de sécuriser un territoire sur le très long terme. Et ça va bien au-delà de 15 ans, c'est finalement tout le long du 21e siècle et au-delà. Parce que ça s'inscrit, encore une fois, le Groenland fait partie du renouveau aussi. Et ça, c'est clairement la marque de l'administration Trump de remettre sur la table la doctrine Monroe, où le Groenland, finalement, dans ses Amériques, parce que géographiquement, le Groenland fait partie du système continental américain. Et finalement, le Groenland fait partie, et le dernier legs de la colonisation européenne. C'est ça aussi, cette dimension aussi politique qui est, je pense, importante. Et d'ailleurs, c'est important de voir, en tout cas du point de vue américain, Évidemment, c'est Trump qui porte cette initiative, mais en fait, elle est portée au sein de l'establishment du Parti républicain. Elle est soutenue par de nombreux élus. D'ailleurs, il y a eu des projets de loi qui ont été déposés en janvier et en février sur la question d'ouverture de négociations sur l'intégration à terme du Groenland au sein de la Fédération des États-Unis. Il y a cette idée de long terme. C'est vraiment quelque chose, à mon avis, qu'on doit aussi garder à l'esprit, je pense.
Oui, alors effectivement, c'est un territoire proche des États-Unis, c'est un territoire américain dans le sens géographique du terme. Et vous l'avez évoqué, Florian Vidal, cette nécessité pour les États-Unis de sécuriser ce territoire, c'est une priorité, ou ça devrait être aussi une priorité pour les Européens. Et je me tourne vers vous, Damien de Georges. De quelle carte les Européens disposent-ils aujourd'hui face à ces velléités américaines? Parce que d'une certaine manière, il y a urgence.
Oui, pour les Européens, c'est vraiment maintenant ou jamais. Les pays nordiques, ce n'est pas une région facile pour l'Union européenne. Chaque pays nordique a sa relation avec l'Union européenne, mais sa relation, son histoire, disons. Mais là, clairement, l'espace ouest-nordique est à portée de main de l'Union européenne, j'ai envie de dire, si elle s'en donne les moyens, si elle sait être stratégique. Vous avez en Islande, d'ici 2027, normalement, un référendum sur la reprise des négociations d'adhésion de l'île avec l'Union européenne. Ça va évidemment bousculer tout le monde, parce que si l'Islande adhère à l'Union européenne, la Norvège va être obligée de suivre, et puis le Groenland va devoir se poser la question, et les îles Féroé avec. Donc ça, c'était avant même l'épisode actuel avec Donald Trump. Donc cet épisode a renforcé la question européenne sur le plan sécuritaire, parce que la sécurité, c'est pas qu'une histoire de protection militaire, c'est aussi une protection des choses qu'on considère comme basiques, comme un accès à Internet. Regardez ce qui se passe en Ukraine actuellement avec Starlink. Je pense que les Groenlandais préféreraient clairement s'assurer des connexions européennes que de dépendre de solutions qui ne sont pas forcément viables sur le long terme.
Emmanuel H., finalement, en guise de conclusion, sur 2 minutes.
Oui, je vais reprendre un peu les propos de Florian Vidal, parce que je trouvais ça très pertinent. Il y a une dimension empire de la part des États-Unis. Et quand on parle du temps long, on parle souvent généralement du retour des empires à l'heure actuelle, avec l'empire russe, l'empire chinois et l'empire américain. Et quelque part, la dimension empirique de Donald Trump, elle est très, très intéressante à observer. Pourquoi ? Parce que vous apercevez que ça soit vers le sud, vers le nord, les États-Unis cherchent à agrandir le territoire. Et pour une personne avec une telle égocentricité que celle de Donald Trump, vous avez forcément l'envie de laisser la marque. Et comment laisser une marque aujourd'hui ? C'est bien évidemment d'agrandir le territoire. De l'agrandir en captant un territoire, que ça soit de manière d'ailleurs économique ou que ça soit de manière, j'allais dire, purement géographique. De contrôler les canaux, de contrôler les routes. Et quelque part, derrière le Groenland, il y a aussi cette dimension de la route maritime, même si, bien évidemment, elle est un tout petit peu plus, j'allais dire, aujourd'hui secondaire, mais potentiellement, avec le réchauffement climatique, encore une fois, la route du nord-est, la route du nord-ouest, potentiellement, vous avez aussi quelque chose qui va se jouer derrière tout ça. Et donc, on assiste, derrière le Groenland, à cette volonté d'agrandir le territoire. Et les Européens n'ont absolument pas ce type de velléité. On le voit côté russe, on le verra potentiellement avec la Chine, avec Taïwan, on le verra bien évidemment avec les États-Unis et le Groenland.
Eh bien, pas de quoi être très optimiste. Merci Emmanuel H. Je rappelle que vous êtes adjoint scientifique et économiste prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle, directeur de recherche à l'IRIS. Merci aussi à Damien de Georges qui était avec nous depuis Reykjavik en Islande et docteur en sciences politiques, spécialiste du Groenland et auteur de Terres rares, enjeux géopolitiques du 21e siècle aux éditions L'Harmattan. Et Florian Vidal depuis Oslo, chercheur à l'Université de Tromsø, l'université de l'Arctique de Norvège. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.